durcissement du conflit entre les îles et Erkal. Les avions de la compagnie ne peuvent ni se poser à l'île des Pins ni à Lifou. Aucune discussion n'est en cours. Aérien toujours, et Fiji Airways desservira la Tontuta dès le mois de décembre. Pour les Calédoniens, cela ouvre de nouvelles possibilités de liaison vers l'Asie ou l'Amérique du Nord. La petite fille du général de Gaulle sur le territoire, Anne de la Roulière, que vous entendrez dans ce journal, participera ce soir à la commémoration du 83e anniversaire du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre. La crise des migrants de Lampedusa préoccupe les pays européens. La France veut bien aider l'Italie, mais n'accueillera pas ces migrants, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Et puis dans la page sport, en attendant la troisième journée de poule de Coupe du Monde de rugby, le retour de la Ligue des champions de football. Demain, le PSG reçoit Dortmund. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Bonjour Gilles Ménage.
Bonjour Jean-François.
On va compter aujourd'hui dans le magazine citoyen, surtout on va essayer de savoir à quoi servent les maths.
Oui, c'est la semaine des mathématiques en Nouvelle-Calédonie, une opération qui a, vous le savez, pour objectif d'exposer à tous les élèves ainsi qu'à leurs parents une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques. Mais comment intéresser les élèves depuis le plus jeune âge? Comment les rendre plus accessibles, voire ludiques, et développer l'intérêt pour cette matière fondamentale? Autant de questions que nous poserons à nos invités. Tout à l'heure, nous serons en compagnie de Xavier Bousmarck, qui est conseiller pédagogique chargé des mathématiques pour la direction des enseignements de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi Marc Ferralis, inspecteur d'académie, Gabriel Avilès, qui est formateur d'enseignants, Marie-Ange Ibgui, qui est chargée de formation continue, et de Sylvain Tolassi, qui est le président de l'association AS de maths. À quoi ça sert les maths? Ce sera dans Citoyens, juste après votre journal.
Actualité aérienne pour ouvrir ce journal. Les avions d'Erkal empêchaient d'opérer sur les Fous et l'île des Pins. Le mouvement se durcit depuis hier, Nicolas Legrand.
Oui, c'est tout d'abord à l'île des Pins que le mouvement a été lancé hier. Depuis 4h ce matin, sur le parking de l'aérodrome de Wanaham à Lifou, l'association des consommateurs bloque à son tour. Le mouvement de protestation doit durer 3 jours, c'est-à-dire jusqu'à jeudi inclus. Les 4 vols Erkal entre Nouméa et Lifou ont donc été annulés ce matin. Seuls les Evazan pourront être opérés. Pierre Calgeau est membre de l'association des consommateurs.
Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de vol. Là, on a prévu 3 jours, mais ça peut monter si on n'a pas de bon retour d'où viennent les institutions. Quoi. Pas de contact jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu de contact depuis qu'on les a rencontrés le mois dernier. On n'a pas de retour. Et c'est pour ça que la pression de la population elle est montée. Puis voilà. Ben les revendications, ce qu'on voulait bien aujourd'hui, c'est de nous remettre 8 allers-retours, parce que c'est un acquis depuis 2011 avec qu'on a eu. Et ensuite, vient un peu maintenant les frais de bagages, ça vient les frais. Et nous, on veut revenir comme avant, on veut voyager librement. Les gens, ils veulent partir de Lifou avec un sac d'igname ou un panier d'igname pour aller à Nouméa et pour qu'ils voyagent librement avec leurs bagages. Et on veut aussi le tarif unique, ça a été aussi en fin de conflit de 2011, le billet à 15 000 pour tous les villes. On entend toujours qu'ils sont toujours déficitaires, qu'ils ne peuvent pas. Ben nous, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas le problème de la population.
Et une nouvelle réunion aura lieu jeudi entre les membres de cette association des consommateurs pour décider d'un éventuel blocage d'une semaine à partir de la semaine prochaine. À l'île des Pins, je le disais, le mouvement sera lui levé demain, c'est ce qui a été décidé hier soir lors d'une réunion. Les 2 rotations Air Calédonie du jour ont donc été annulées en attendant, mais le collectif des usagers menace d'un mouvement plus dur la semaine prochaine s'il n'obtient pas gain de cause sur les horaires des vols et les tarifs résidents. Julien Douépéré est membre du collectif.
Le lundi 25 à 16h, si on n'a toujours pas de solution actée de la part de Air Calédonie, du gouvernement, et pour les points de revendication qui ont été déjà établis, il y aura un blocage unité qui débutera le mardi 26 septembre à 6h du matin. Il n'y a toujours rien, toujours pas de proposition. Le seul point de revendication qui a été validé par le collectif, c'est le point du fret. Et les 2 autres points pour le tarif résident et les aménagements des horaires de vol ne reviennent toujours pas aux demandes qui ont été faites auprès de Erkal et du gouvernement. Le seul retour, c'est qu'ils ne peuvent pas, il n'y a pas le budget pour.
Et le collectif de l'île des Pins qui dit également être en lien avec Marais, qui doit à son tour constituer un collectif de protestation dans la semaine. Le gouvernement, lui, devrait communiquer dans la journée sur le dossier Air Calédonie. Mais d'après nos informations, Gilbert Thuyénon, le membre du gouvernement en charge du transport, a donné rendez-vous aux différents collectifs le 27 septembre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une réunion au sujet d'Erkal, c'est-à-dire après les ultimatums lancés. Pour le moment, la compagnie ne souhaite pas s'exprimer au sujet de ce conflit.
Et restons dans l'actualité aérienne. Fiji Airways va donc desservir le ciel calédonien à partir du 30 novembre. L'annonce a été faite hier par la compagnie aérienne nationale fidjienne, Frédéric Joncheray.
Elle a obtenu un accord de service aérien qui l'autorise à proposer des vols vers les territoires français. Elle a décidé, en accord avec ses homologues calédoniens, de débuter avec une ligne entre Nandi et Nouméa. Le premier vol vers l'Atantuta s'effectuera le jeudi 30 novembre. Puis à compter du 7 décembre, Fiji Airways mettra en place 2 vols par semaine les lundis et jeudis à destination de la Nouvelle-Calédonie. Une bonne nouvelle pour la présidente du syndicat des agences de voyage de Nouvelle-Calédonie, Vaya Frogier.
C'est effectivement une bonne nouvelle d'avoir un opérateur qui vient sur notre territoire. Ça confirme peut-être son attractivité. Fiji Airways, c'est une compagnie intéressante dans le Pacifique. C'est 21 appareils qui volent. Ils ont récemment commandé des A350 pour ouvrir une nouvelle destination sur l'Asie. Donc nous, c'est a priori un Boeing 737 MAX qui touche la Calédonie 2 fois par semaine et qui ouvre des lignes très intéressantes sur les États-Unis, notamment Honolulu, San Francisco, Los Angeles, mais aussi Vancouver. Donc pour le Canada, c'est intéressant. Sur l'Asie, il touche Singapour, Hong Kong, Tokyo, avec des connexions qui derrière permettent de rayonner. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est un flux supplémentaire de sièges qui va nous permettre de remplir, et notamment pendant les périodes chargées que sont les vacances scolaires. Ça nous offre des possibilités pour partir en transit sur la Nouvelle-Zélande, sur l'Australie. Donc de nouvelles possibilités pour les passagers.
Cette arrivée d'un nouvel opérateur est donc une opportunité d'ouverture de lignes supplémentaires pour les Calédoniens. Via un réseau complet de connexions, il permet de desservir plus de 100 destinations à travers le monde. Et notez que ces vols sont déjà en vente dans vos agences de voyage. Et comme ils sont pour l'heure vides, il est possible de trouver des tarifs intéressants, des prix avec ou sans bagages, avec ou sans option de remboursement.
Le 83e anniversaire du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre sera célébré ce soir à 17h au pied de la Croix de Lorraine du Mont Coffin. Une cérémonie à laquelle assistera la petite fille du général de Gaulle qui est arrivée dimanche à Nouméa, Anne de la Roulière, et par ailleurs secrétaire générale de l'Association des familles des compagnons de la Libération. Et elle a accepté de répondre à nos questions ce matin. Elle revient d'abord sur l'histoire de cette association.
L'Association des familles de compagnons de la Libération a été fondée il y a une douzaine d'années, entre autres par François Broche, dont le père Félix Broche est bien connu ici, et qui avait pour but en fait de prolonger la mémoire des compagnons de la Libération. Vous savez que l'ordre de la Libération a été forclos en 1946. Il y a eu 1038 compagnons, il y a 5 villes compagnons, il y a des unités de régiment, il y a des bâtiments de la Marine nationale, mais il n'y a que 1038. Alors, il a été forclos en 1946, il a été réouvert en 1956, si je ne dis pas de bêtises, pour Winston Churchill et le roi George V, qui ont été faits compagnons de la Libération après cette date, mais depuis, effectivement, cet ordre est forclos. Et donc, cette association a été créée en anticipant la disparition du dernier compagnon, qui a été Hubert Germain en 2021, et pour que ces chevaliers des temps modernes, si je puis m'exprimer ainsi, leur mémoire puisse perdurer et être transmise au fur et à mesure des générations. Je crois que la transmission est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Tout ça, sur les jeunes générations, ça ne leur dit plus rien. Même le nom du général de Gaulle, beaucoup de jeunes ne savent même pas qui il est. Donc, il est très important pour ces personnes qui ont été quand même, je dirais, à l'origine de la libération de la France, même si évidemment ce ne sont que 1038 personnes, alors qu'il y en a eu des centaines de milliers qui se sont battus pour la libération de la France, mais c'est un flambeau qu'il faut faire passer au fur et à mesure des générations.
La transmission est donc un élément primordial aux yeux de la petite fille du général de Gaulle, et nous lui avons demandé si cette mémoire du gaullisme était toujours aussi vivace en France.
En période électorale, oui. C'est assez amusant. Dès qu'il y a des élections, tout le monde est gaulliste, c'est formidable. Bon. Entre les lignes, je dirais que c'est quand ça arrange. Voilà, on le sort un peu du chapeau, pardonnez-moi cette expression, mais quand ça peut arranger un tel ou un tel. Je crois que les fondamentaux restent là. Il ne faut pas oublier quand même que les institutions sont celles qu'il a créées, que la Ve République, même si elle est controversée aujourd'hui, c'est lui qui l'a créée, la sécurité sociale, etc., le vote des femmes, la contraception. Enfin, voilà, il y a énormément de choses en fait qui viennent de lui. Donc ça évidemment, personne ne peut le renier ou l'oublier. Voilà, pour le reste, je pense que c'est un peu de l'opportunisme, dirons-nous.
Sur un plan plus personnel, Anne de la Roulière a bien sûr de très nombreux souvenirs de son grand-père, qui était un homme simple et plein d'humour.
Moi, c'est mon grand-père. En fait, le général de Gaulle, je l'ai connu à 15 ans, donc quelques années après sa mort. Moi, de 0 à 11 ans, j'ai vécu avec mon grand-père en vacances à Colombey. Et oui, il était très drôle. Il était vraiment très drôle. Il avait beaucoup d'humour, et pas seulement au deuxième degré, parce que nous, enfants, on arrivait à le comprendre. Donc, c'était quelqu'un de foncièrement gay. Enfin, en tout cas, en famille, il était très gay. Moi, il m'a appris à jouer aux cartes, il me chantait des chansons. C'était un vrai grand-père, enfin, malgré sa stature. Bon, alors il y avait des moments où on ne pouvait pas l'approcher, on le savait, c'était, voilà, et quand il était dans son bureau, personne ne franchissait la porte. Mais nous prenions tous nos repas ensemble, comme une famille normale. Donc ça paraît un peu étonnant peut-être aujourd'hui, mais à l'époque, je pense que nous vivions comme d'autres familles du même style, voilà, sans chichi et sans complications.
Et quand on a un grand-père qui a marqué l'histoire de France, ses descendants ont-ils une responsabilité ?
Oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que nous avons tous été élevés dans le respect des institutions, des personnes. Ce qui est un peu déroutant aujourd'hui, c'est qu'on voit que la figure du président, aujourd'hui, n'est plus tellement respectée par qui que ce soit. Quand on voit ce qui se passe dans la rue, que ce soit les attaques contre M. Macron, contre M. Hollande, contre M. Chirac, enfin, tous les présidents, quels qu'ils soient, je crois qu'il faut faire abstraction de la personne humaine de sa couleur politique, quelle qu'elle soit, c'est le président de la République. Et le président de la République a été élu, quoi qu'on en dise, par les Français. Et donc, c'est quelqu'un qui doit être respecté, quoi qu'il en soit. Même si on n'est pas d'accord avec lui, c'est pas le problème. C'est, voilà. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu perdu ce respect des institutions. Et je trouve que c'est un petit peu inquiétant. Après, dans nos vies personnelles, je pense que ça nous oblige effectivement à un devoir de réserve et à éviter effectivement d'avoir une vie peut-être un petit peu débridée ou de faire la une des journaux. C'est jamais très agréable.
Anne de la Roulière, secrétaire générale de l'Association des familles des compagnons de la Libération au micro de Gilles Ménage. Elle sera donc présente ce soir au pied de la Croix de Lorraine au Mont Coffin. Il est 11h42, une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie dans un petit instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB. En septembre, c'est le rendez-vous Canal Plus à ne pas manquer. Le meilleur du sport et du cinéma. Alibi.com, Astérix et Obélix, Babylone ou encore Black Panther, offrez-vous le cinéma ultra récent à seulement 5000 francs par mois pendant 12 mois. Et profitez des contenus Canal Plus, Disney Plus, OCS, Bein Sport en live ou en replay, où vous voulez, quand vous voulez. Jusqu'au 30 septembre, pour tout nouvel abonnement de 24 mois à partir de la formule Sélection Plus, bénéficiez pendant 12 mois du tarif unique de 5000 francs par mois. Le mois en cours est offert. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Tous les jeudis, à 10h et 15h, la rubrique cuisine avec Arthur Bonnet. Arthur Bonnet, des cuisines modernes, un design exclusif, avec des matériaux de qualité adaptés à vos besoins et accessibles pour tous. Arthur Bonnet, au carrefour du golfe de Tina, un numéro 41 72 12.
Découvrez le nouveau Renoir Kana, un SUV sportif, spacieux et familial avec 5 vraies places. Renoir Kana, une silhouette élancée, une conduite dynamique et 4 versions hybrides disponibles à partir de 2 995 000 francs TTC seulement chez Renault Magenta Aérodrome. Info sur Facebook Renault Nouvelle-Calédonie. Nouvelle ère. Renault.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
À la suite d'Infomag, Jean-François Baudin.
Avec la suite de l'actualité en Calédonie, et d'abord cette condamnation pour pêche illégale dans la réserve naturelle de Poé, Nicolas.
Oui, le 22 février dernier, les gardes nature provinciaux ont contrôlé un habitant de la tribu de Niabouraï, déjà contrôlé à plusieurs reprises pour des faits exactement similaires. Son sac contenait 16 mulets et un picot gris. L'individu a reconnu être informé de la réglementation en vigueur et de l'interdiction de pêcher en réserve naturelle, ainsi que la période de fermeture annuelle de la pêche de picot. Jeudi 14 septembre, lors de l'audience, le procureur a rappelé que l'homme avait déjà été condamné pour des faits similaires. Selon le procureur, l'individu s'est clairement moqué de la justice en réitérant l'infraction. Le tribunal l'a donc déclaré coupable et l'a condamné à une amende de 400 000 francs. Il devra également indemniser la province sud à hauteur de 350 000 francs au titre des dommages et intérêts.
C'est Frédéric Marquilecchia, contrôleur général de la sécurité civile, qui était notre invité ce matin à 7h30. L'occasion de revenir sur la convention signée hier avec l'aire Djoubéa Kapoumé et qui vise à associer les autorités coutumières à l'analyse et à la gestion des risques naturels sur le territoire, mais aussi d'évoquer la saison sèche qui s'annonce.
On nous annonce un effet Niño, vous savez que c'est associé à de la sécheresse, alors c'est pas forcément des chaleurs extrêmes, c'est essentiellement un manque d'eau qu'on ressent déjà à présent puisque la météo nous a fait connaître qu'on était à moins 35% des précipitations normales. Alors ça se ressent pas au quotidien, il y a toujours de l'eau au robinet, par contre je sais que dans le monde agricole, notamment chez les éleveurs, des difficultés se font ressentir. Dans le nord, on a du mal aussi à aller prélever dans les réserves de l'eau pour éteindre les feux, donc il faut aller à la mer. Ce sont des petits signaux comme ça qui montrent qu'on n'est pas super en sécurité. Il n'y a pas aujourd'hui encore de situation dramatique. Vous voyez, le temps nous permet d'avoir un petit répit d'une quinzaine de jours. Ne demandez pas à un pompier s'il a suffisamment de moyens, parce qu'on réclamera toujours davantage. Un petit plus serait le bienvenu, mais le président a demandé et obtenu le renfort d'une mission d'appui de sécurité civile qui est arrivée sur le territoire ce samedi. Donc ce sont 3 officiers qui viennent renforcer l'échelon de commandement de la sécurité civile et qui nous soulagent dans la prise en compte de ce phénomène saisonnier.
Frédéric Marchilecchia, contrôleur général de la sécurité civile, qui était notre invité ce matin. Vous pouvez retrouver cette interview évidemment en audio et vidéo sur notre site internet. Le risque incendie, qui est très élevé dans l'est du continent australien, non seulement il n'a pas plu depuis des semaines, mais les températures y atteignent des records pour la saison. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Il a fait près de 35 degrés sous abri hier dans l'ouest de Sydney et le sud du New South Wales, où aucune chute de pluie digne de ce nom n'a été signalée depuis des semaines. Le thermomètre va à nouveau grimper aujourd'hui dans ces mêmes régions pour y dépasser parfois les 36 degrés sous abri, principalement à cause d'un vent fort de nord-ouest en provenance du Grand Désert central. Près d'une centaine de feux de brousse sont également signalés, qui ont déjà détruit des dizaines de milliers d'hectares de végétation. Par précaution, un total fire ban, à savoir l'interdiction absolue d'allumer une flamme à l'air libre, a donc été décrété dans la grande région de Sydney, de même qu'en le centre et le sud de l'État, où des dizaines d'établissements scolaires sont par ailleurs restés fermés. L'actuelle vague de chaleur va ensuite toucher le sud-est du Queensland, où des températures supérieures à 35 degrés sous abri sont attendues jeudi. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Revenons à l'actualité sur le territoire avec une page santé. L'ASSNC, l'Agence sanitaire et sociale, lance aujourd'hui l'opération Bouger pour sa santé avec le soutien du Fonds Pacifique et de la Communauté du Pacifique. Ce projet ambitionne de renforcer la pratique de l'activité physique et lutter contre la sédentarité. Des ateliers sont organisés sur tout le territoire pendant les mois de septembre et octobre. L'ASSNC est aujourd'hui à Bouloupari. Et puis au mois d'octobre, les Calédoniens pourront retrouver pour la 4e fois les journées locales de l'alimentation, Léana Colombo.
C'est le cluster Pacific Food Lab qui est à l'origine du projet. Plusieurs événements seront organisés tout au long du mois, à commencer par un événement qui se déroulera le 1er octobre. Les Calédoniens pourront retrouver le village de l'alimentation sur le parking de la Moselle, où plus de 50 stands auront pour objectif de valoriser les produits locaux. L'objectif sur le long terme est de généraliser cette fête à tout le territoire, et le mois d'octobre n'a pas été choisi au hasard. Gabriel Levionnois, membre fondateur de Pacific Food Lab.
On a choisi le mois d'octobre parce que c'est le mois le plus fertile. C'est là où il y a l'abondance. Dans le Pacifique Sud, les sociétés ancestrales, elles ont en quelque sorte un calendrier qui s'appuie sur l'abondance et la disette. Donc ici en Calédonie, dans le monde mélanésien, on fête l'igname nouvelle. Et là, on va fêter les produits locaux à une saison qui est le plus propice dans la production, la pêche, la cueillette de produits locaux. La finalité, c'est que cet événement il soit inscrit dans le calendrier des Calédoniens et qu'on puisse à un moment donné, oui, préparer ce village, cette grande table ouverte, ce festin commun, tous ensemble, et que ça devienne une date qu'on est pressé de retrouver et surtout qu'on a envie de préparer.
Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement est partenaire de l'événement et le finance à hauteur de 8 millions de francs.
Et puis la transition alimentaire est un sujet qui est aussi porté par le gouvernement. L'EGC, en collaboration avec le gouvernement justement, a décidé d'organiser un séminaire-atelier aujourd'hui et demain sur ce thème. Écoutez Gaëlle Nozac, responsable des programmes de l'EGC.
Parce que c'est un enjeu territorial assez important sur lequel, en fait, plusieurs acteurs des filières sont en train de travailler actuellement, notamment le gouvernement. Et on trouvait ça intéressant de faire sensibiliser et de faire découvrir cette thématique aux étudiants. La transition alimentaire, c'est comment mieux consommer et mieux produire de manière durable, économiquement et environnementalement. C'est un séminaire-atelier, donc c'est assez collaboratif. On organise sur ce matin des ateliers sur les enjeux de la transition alimentaire avec l'Agence sanitaire et sociale et la DECAL, notamment. Et après, on va découvrir l'alimentation durable et aussi tout ce qui est problématique des entreprises sur la transition alimentaire et autour de la transition alimentaire avec des problématiques d'entreprises et différents partenaires.
Et ce séminaire de l'EGC se clôturera demain par une table ronde entre les étudiants, le gouvernement, mais aussi la Chambre d'agriculture et de la pêche. Enfin, des tours de piste pour une bonne cause. Comme chaque année, le lycée Jules Garnier organise aujourd'hui les 12 heures du lycée Jules Garnier. L'objectif est de faire un maximum de tours de piste en courant, de 7h jusqu'à 19h. Et pour cette seconde année consécutive, tous les fonds récoltés par les ventes de gâteaux et les activités sportives seront reversés à l'Association calédonienne du handicap. Éric Reuillard est professeur d'EPS et l'organisateur de cet événement.
Il y a deux aspects. Il y a l'aspect éducatif, humain. Oui, effectivement, c'est une bonne journée si un maximum de personnes ont pris conscience de ces problématiques-là au niveau scolaire, donc tout ce qui est handicap, d'autant qu'il y a des jeunes enfants handicapés de l'ACH qui viennent tout au long de la journée. Donc ça permet vraiment de sensibiliser nos élèves, notre population scolaire à ce type de problématiques. Et la deuxième partie qui est plus pragmatique, c'est l'ensemble des dons récoltés qui pourront concrètement servir l'association. Le principe, en fait, c'est un relais de 12 heures qui dure de 7h du matin jusqu'à 19h, un relais non-stop, où en fait les participants fournissent un don pour faire des tours de terrain. Et plus le nombre de tours de terrain est important, plus les dons récoltés sont importants et peuvent être ensuite redistribués à la CH.
Et malgré un temps évidemment pluvieux, les jeunes étaient particulièrement motivés à l'idée d'aider la CH ce matin, que ce soit pour la vente de gâteaux ou pour les tours de piste. Tous étaient unis pour un seul but.
On met en avant les gens handicapés et du coup, on soutient la cause.
Ben, c'est intéressant parce que ça permet c'est surtout pour l'association des handicapés. Puis voilà, comme en ce moment, les sociétés elles sont beaucoup dans l'inclusion des handicapés, tout ça. Du coup, c'est intéressant de faire des trucs comme ça.
En fait, quand tu cours avec la pluie, ça te refroidit, on va dire. Et du coup, t'as jamais trop chaud, t'es bien.
On court 15 minutes à une allure où on peut tenir des heures. Et ensuite, après ces 15 minutes-là, on marche pendant 5 minutes tout en faisant nos tours en même temps.
On fait tout le temps des tours au moins.
Tu comptes faire combien de tours ?
Je sais pas, tant que je suis pas fatiguée.
Il faut prendre conscience qu'on n'a pas tous la même chance d'avoir deux jambes, deux bras. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça le but du projet, c'est de faire comprendre aux gens la chance qu'ils ont et de profiter.
Voilà un reportage au pas de course de Sébastien Béthune. Et notez que vous pouvez, vous aussi, aller participer à cet événement et courir pour la bonne cause. Les portes du lycée sont ouvertes aux personnes extérieures jusqu'à 17h30. Il est 11h52, une nouvelle pause avant de voir dans un instant l'actualité en métropole et dans le monde, et notamment la crise des migrants italiens de Lampedusa.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
On vous attend chez Confo.
Conforama Orphelinat est ouvert du lundi au samedi matin à côté de Carrefour Market pour mieux vous servir. Remise exceptionnelle, spéciale ouverture. Conforama, plus proche de vous.
Vous êtes passionné de décoration ? Home Depot, c'est plus de 5000 produits en solde. Décoration, art de la table et loisirs créatifs, votre inspiration à petit prix. Home Depot vous accueille à Ducos, parking dédié aux clients. En savoir plus sur Facebook ou sur homedepot.nc.
Born Again, votre constructeur de villas de qualité au juste prix avec des délais de livraison garantis.
Villa Born Again.
Villa Born Again, la construction sereine. Info sur bornegain.nc.
Trois adresses à Nouméa. Animalia, tu causes fata magenta, Animalia. Nourriture et accessoires sont à notre comptoir. Ouverture en continu du lundi au samedi. Animalia, Animalia.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'Europe continue de gérer comme elle le peut la crise des migrants de Lampedusa. Ces derniers jours, plus de 10 000 d'entre eux ont rejoint cette île italienne de Méditerranée au large de la Tunisie, qui constitue une porte d'entrée pour les migrants dans l'Union européenne. Le ministre français de l'Intérieur était à Rome la nuit dernière. Gérald Darmanin a rencontré son homologue italien. Avant son départ, il avait indiqué que la France proposait son aide à l'Italie pour mieux protéger ses frontières, mais qu'il n'était pas question pour elle d'accueillir des migrants. En attendant, les autorités italiennes gèrent comme elles le peuvent l'arrivée de nouveaux migrants à Lampedusa, surtout que ce flux ne s'arrête pas et que les arrivées se poursuivent jour après jour. Sébastien Le Belzic pour Europe 1.
C'est donc un flot continu de migrants qui arrivent ici à Lampedusa. Alors ils vont rester 2-3 jours ici, le temps d'être enregistrés et hébergés dans un centre d'accueil. Ils font le trajet en bus depuis le port, escortés par les carabiniers, la police italienne. Ils sont visiblement fatigués, déshydratés. Ils doivent reprendre des forces. La traversée peut prendre 8 à 10 heures pour eux depuis la Tunisie. Et ensuite, les autorités italiennes, pour désengorger le centre d'accueil ici, les envoient en Sicile, sur le continent italien. italiens via des ferries spécialement affrétés. Il en part 2 à 3 par jour en ce moment, toujours sous haute surveillance, hein, direction donc cette fois les grands centres de Calabre, à 400 km d'ici, ou à Naples, encore plus au nord. Une fois sur place, ils sont normalement pris en charge pour identifier les réfugiés politiques des migrants économiques qui doivent être renvoyés chez eux. Mais voilà, beaucoup parviennent à s'échapper. Ils traversent alors l'Italie. Leur première étape se trouve entre Gênes et Vintimille avant de rejoindre d'autres pays de l'Union européenne et notamment la France. Il leur faut environ une semaine pour rejoindre ainsi la ville de Menton depuis Lampedusa où je me trouve.
Et à Menton justement, les autorités ont déployé des renforts, 120 militaires de l'opération Sentinelle et 200 membres des forces de l'ordre. Mais il est hors de question pour autant d'ouvrir ou d'installer un camp de migrants à Menton, a tenu à rappeler le préfet des Alpes-Maritimes, car de nombreuses rumeurs avaient circulé ces derniers jours.
Nous avons contacté une association de protection civile pour qu'elle soit à même d'aider, de venir en appui et en aide à la PAF dans des locaux qui restent à définir. Hein. Il n'y a pas question de créer un camp de migrants, comme cela a été dit. C'est seulement pouvoir, pour nous, être encore plus opérationnel dans le cadre des procédures de non-admission des personnes interpellées et pouvoir les remettre aux Italiens dans les meilleurs délais. Il y a pu avoir des interprétations, des déclarations, comme quoi on partait sur l'installation, compte tenu de ce qui se passe à Lampedusa, de création d'un centre de migrants à Menton. Je peux vous dire qu'il n'est pas question de réquisition pour un tel centre, ni à Menton, ni ailleurs dans le département des Alpes-Maritimes.
Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes. Et parmi les réactions politiques à cette crise des migrants en Europe, cette déclaration de Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement national, interrogée sur le plateau du 20h de France 2, estime que ce n'est pas à la Commission de Bruxelles de gérer la politique des États en matière de migrants.
La Commission européenne ne doit pas s'attribuer des pouvoirs qui doivent rester aux nations parce que il en va de leurs droits fondamentaux. Il en va du droit fondamental d'une nation et d'un peuple de décider qui vient chez lui, à quelles conditions et qui doit partir et quand. Ça n'est pas à Madame von der Leyen de décider. Et quand je l'entends, comme elle l'a fait aujourd'hui, dire « c'est l'Union européenne qui décide qui entre », je viens lui dire « non, Madame, ce sont les nations qui décident et ça ne peut pas être l'Union européenne parce que si vous le faites à la place du peuple français, alors vous rompez avec le processus démocratique. »
Marine Le Pen sur le plateau du 20h de France 2.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Notre question du jour dans ce rendez-vous opinion sur Radio Rythme Bleu. Au vu de ce qui se passe à Lampedusa, la France doit-elle, selon vous, faire confiance à l'Europe pour endiguer les flux migratoires? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 68% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent ne pas être surpris par la décision de l'Union calédonienne de suspendre toutes ses rencontres avec l'État jusqu'à son congrès de novembre. Ils sont 32% à se dire surpris par cette décision. Revenons à l'actualité en métropole avec ce drame lié au harcèlement scolaire. Les parents de Marie, cette jeune fille qui s'est suicidée en 2021, ont décidé de porter plainte contre TikTok. Leur fille ne supportait plus les moqueries sur son poids et elle avait fini par mettre fin à ses jours. Ils ont attaqué TikTok car ils estiment que l'algorithme de la plateforme a contribué au passage à l'acte de leur fille. C'est ce qu'a expliqué leur avocate, maître Laure Boutron-Marmion.
Dans les dernières semaines, avant sa mort, elle a fait part dans des vidéos de son mal-être, de son envie de se suicider. Elle s'est mise en scène aussi en évoquant clairement son envie de se suicider. Et TikTok n'a rien fait. TikTok n'a pas censuré les vidéos, alors que pourtant, dans sa charte, ils nous expliquent qu'ils ont les modérateurs ad hoc pour pouvoir le faire. Et puis, deuxièmement, non content de ne pas censurer les vidéos, évidemment, l'algorithme a fait en sorte qu'elles reçoivent elles-mêmes des vidéos au même contenu. Donc des vidéos sur le thème de la dépression, sur le thème de l'automutilation, sur le thème du suicide.
Et toujours à propos de harcèlement scolaire, le ministre de l'Éducation nationale a réuni les recteurs d'académie. Gabriel Attal souhaite un changement radical dans les signalements et dans leur gestion de signalements de harcèlement. Il veut que toutes les familles concernées se sentent écoutées et accompagnées. Il sera midi dans quelques secondes. La dernière pause de ce journal avant la page sport et ensuite ce sera le magazine Citoyen.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Fan de la marque,
Under Armour, découvrez votre magasin Project Under Armour au centre-ville de Nouméa. Toutes les gammes de chaussures et vêtements de la marque Under Armour et la collection exclusive The Rock. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Grand déstockage chez Conforama, du 2 au 24 septembre sur plein d'articles en magasin. Exemple, le canapé d'angle relax géant à 289 900 francs est à moins 50%, soit 144 950 francs, paiement 4 fois. Vite, chez Conforama.
Du 29 septembre au 1er octobre, l'association Crescendo vous donne rendez-vous au Centre culturel du Mont d'Or pour découvrir la comédie musicale « Silence sur l'Olympe ». La musique est bannie de l'Olympe et tout devient monotone. Une situation critique qui ne peut être résolue que par Hermès, rapide comme l'éclair et toujours dans les bons coups. « Silence sur l'Olympe » du 29 septembre au 1er octobre 2023 au Centre culturel du Mont d'Or. Billets en vente sur www.etiquette.nc. Renseignements au 41 90 90.
Se prémunir des risques du quotidien n'est pas toujours facile et surtout peut coûter cher. Jusqu'au 15 décembre, Generali vous propose une offre exceptionnelle de moins 20% à vie sur la souscription de nouveaux contrats d'assurance. Auto, habitation, plaisance et moto. Avancez en toute confiance avec Generali.
Generali, nous sommes là pour vous.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive.
Avec Décathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Décathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
La page sport que nous ouvrons par la Coupe du Monde de rugby.
Les pages spéciales Coupe du Monde de rugby 2023 avec Dynatech, votre partenaire installation photovoltaïque de lampadaires solaires autonomes et Elumelec. Elumelec, c'est tout le matériel électrique et l'éclairage pour professionnels et particuliers au 7 rue FLA du COS.
Le 15 français est installé désormais à Aix-en-Provence. C'est là qu'il va préparer ses deux derniers matchs de poule, Frédéric.
Le premier se jouera dès vendredi matin, Marseille face à la modeste Namibie, avant de défier une semaine plus tard à Lyon l'Italie le 6 octobre. Après le match poussif face à l'Uruguay, les Bleus comptent bien aligner une troisième victoire consécutive face aux joueurs africains, tout en retrouvant une vertu essentielle de leur sport, comme en témoigne William Servat, l'entraîneur français des Avants.
Ce match d'Uruguay nous a simplement remis un petit peu les idées dans l'ordre sur la notion de combat et de qualité que l'on devait avoir sur le terrain pour réussir à faire de belles choses. Je crois qu'il ne s'agit pas simplement que de vouloir produire du jeu. Notre sport est un sport de combat et à partir du moment où on rentre vraiment avec cette philosophie-là, on arrive à faire des choses magnifiques comme on a peut-être pu le faire par le passé. Et aujourd'hui, c'est l'avenir qui compte, donc on est en train simplement de remettre les choses dans l'ordre pour essayer de respecter au mieux le jeu, notre sport.
Fabien Galthié et son staff communiqueront ce soir autour de 21h le nom des joueurs retenus pour affronter la Namibie vendredi matin pour le compte de la troisième journée de la phase de poule. Ils devraient aligner une équipe quasi type avec le retour de deux anciens blessés, le centre Jonathan Danty et le pilier Cyril Baye. Et seuls trois joueurs qui ont évolué face à l'Uruguay devraient être reconduits. Louis Biel-Biarré, Cameron Wauki et Anthony Jelonche.
Les pages spéciales Coupe du Monde de rugby 2023 avec Elumelec. Elumelec, c'est tout le matériel électrique et l'éclairage pour professionnels et particuliers au 7 rue FLA du COS. Plus d'infos sur Facebook ou au 46 54 54. Elumelec, met en lumière la Coupe du Monde de rugby. Les pages spéciales Coupe du Monde de rugby 2023 avec Dynatech. Chez Dynatech, choisissez votre solution en énergie renouvelable. Profitez de la dernière génération de panneaux photovoltaïques. Études et devis gratuits au 27 50 70.
Et pendant ce temps-là en football, une nouvelle saison de Ligue des Champions débute demain matin avec l'entrée en lice du champion de France.
Le Paris Saint-Germain entamera cette nouvelle campagne face aux Allemands du Borussia Dortmund à 6h. Un sérieux adversaire d'entrée dans une poule qui est pour le moins relevée avec également la présence de l'AC Milan et de Newcastle. Le PSG New Look de Luis Enrique va aborder la compétition sans réelle certitude mais devra d'entrée muscler son jeu face à une équipe réputée rugueuse, agressive, qui ne se privera pas de presser haut et d'harceler. Le capitaine parisien Marquinhos.
C'est très clair que nous, on n'est pas dans notre potentiel maximal. Nous, on le sait qu'on peut beaucoup grandir dans la saison. Le coach, il le sait aussi. Mais il a vu des bonnes choses qu'il nous a montrées. Il a vu aussi des choses qu'il faut améliorer, ça c'est sûr. Et nous, on a travaillé pendant la semaine. On va bosser pour que ça marche.
Et notez qu'avant le match PSG Dortmund, l'AC Milan et Newcastle s'affronteront à 3h45. Quant à Lens, l'autre club français engagé dans la compétition, il se déplacera jeudi matin à Séville.
Et puis dans la région, toujours en football, la Mélanésian Cup aura bien lieu du 8 au 15 octobre en Nouvelle-Calédonie. Au sein d'une même poule, il y aura 4 sélections.
La compétition rebaptisée MSG se disputera sur 3 journées entre la Calédonie, les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu. Nos Calédoniens entameront la compétition le dimanche 8 octobre face aux Vanuatais avant de jouer les Papous le mercredi 11, puis les Salomonais le dimanche 15 octobre. Et sur le territoire, les demi-finales de la Coupe de Calédonie ont été reprogrammées à ce samedi. L'OSI affrontera Yengen à 13h au stade Noumadélé avant que Nejiou reçoive l'AS Magenta à 16h.
On termine avec un mot de cyclisme. La Fédération française a annoncé la sélection retenue pour disputer les championnats d'Europe qui auront lieu du 20 au 24 septembre à Drenthe, aux Pays-Bas.
Sur l'épreuve du contre-la-montre, Bruno Armirail et Rémi Cavagna seront alignés dès mercredi et nous les retrouvons sur l'épreuve mixte en relais dès le lendemain avec Benjamin Thomas, Audrey Cordon-Rago, Cédrine Carbaol et Juliette Labousse. Et sur la course en ligne de dimanche, le sélectionneur Thomas Vaucler a convoqué 8 coureurs. Arnaud Démare, Christophe Laporte, Axel Zingle, Florian Sénéchal, Benoît Cosnefroy, Sandy Dujardin, Mathis Louvel et enfin Clément Russo.